Chapitre 12. Un matin de victoire. Les collines et les crêtes déchiquetées qui entouraient le camp montraient tous les signes d'une nature martyrisée par la sécheresse et la chaleur. Des aberrations à cette époque de l'année. En réalité, plutôt des blasphèmes. Parce que la dernière fille de cuisine, si concentrée qu'elle soit sur ses chaudrons à récurer, savait que c'était un effet visible de l'influence du ténébreux sur le monde. Si la forêt à proprement parler était derrière la colonne, à l'ouest, des arbres poussaient de ci de là sur les versants rocheux des collines. Des chênes noueux, des pins et des ormes à la forme étrange et d'autres spécimens dont Egwene ignorait le nom. Privés d'eau, tous agonisaient, et ils n'auraient aucune chance de s'en tirer si le temps ne changeait pas très vite. Un peu au-delà du camp, la rivière Rezendrel coulait vers le sud-ouest. Large de 20 pas et dotée de 2 berges de boue durcie incrustées de pierre, ce cours d'eau aurait pu être délicat à traverser dans d'autres circonstances. Mais là, l'onde arrivait à peine au niveau du boulet des chevaux. Egwene eut l'impression que ses ennuis pesaient un peu moins lourds. Malgré sa migraine, elle eut une pensée pour Nineveh et Elaine. Leur quête était aussi importante que tout ce qu'elle faisait, et peut-être plus. Si elle échouait, le monde survivrait. En revanche, Nineveh et Elaine devaient réussir à tout prix. Ralentissant quand les chevaux devaient négocier des pentes trop rudes, mais le jeu consistait à rester au maximum dans la plaine, la petite colonne avançait à un bon rythme vers le sud. Fort et doté d'un pied très sûr, le hongre au large naseau de Brine semblait se moquer comme d'une guigne des difficultés du terrain. Daïchar parvenait pourtant à le suivre sans difficulté. La monture de Siouan avait plus de mal, peut-être parce qu'elle captait l'angoisse de sa cavalière. Malgré de nombreuses heures d'entraînement, l'ancienne chair d'Amirline restait une insulte à la face de l'équitation. Presque obligée de nouer les bras autour du cou de sa jument quand ça montait, elle passait à un souffle de faire le grand plongeon en avant quand ça descendait, et oscillait grotesquement sur sa selle en terrain plat. À la regard de fer, Mirelle semble avoir recouvré un peu de bonne humeur. Excellente cavalière, elle se jouait du terrain et des obstacles, sans donner l'impression d'y penser, ce qui soulignait d'autant plus la maladresse de Siouan. À côté de Mirelle, même Brine avait l'air un peu laborieux. À l'ouest, des cavaliers apparurent soudain sur une crête. Une centaine d'hommes en armure complète avançant en colonne sous le soleil de plomb. De si loin, Egwene ne parvint pas à distinguer clairement leur étendard, mais elle savait qu'il arborait la main rouge de Matt. Elle n'aurait pas cru que des hommes de cette compagnie s'aventureraient si près du camp des Aes Sedai.
Des bêtes sauvages fidèles aux dragons,
marmonna Mirelle en observant les cavaliers. Ses mains gantées serrèrent plus fort les rênes de sa monture. De colère, pas de peur.
La compagnie de la main rouge envoie des patrouilles, dit placidement Brine.
Avec un regard pour Egwene, il ajouta.
« La dernière fois que je lui ai parlé, mère, le seigneur Talmanès semblait se faire du souci pour toi. »
Toujours ce même ton tranquille.
« Vous lui avez parlé ?»
s'écria Mirelle, lâchant la bonde à sa fureur. Avec Egwene, c'était impossible, mais avec Brine...
« Seigneur Brine, ce n'est pas loin d'une trahison. Il se peut même que ça en soit une. »
Divisant son attention entre son cheval et les hommes qui avançaient sur la crête, Siouan ne regarda pas Mirelle, mais elle se raidit. Jusqu'à ce jour, personne n'avait associé la compagnie et la notion de trahison. Au détour d'un tournant, sur le versant d'une colline, apparurent les ruines de ce qui avait été une ferme. Tout un pan de mur s'était écroulé, et du toit, il ne restait plus que des poutres calcinées. L'étable était dans le même état, et des carrés de cendres noires marquaient l'emplacement de plusieurs remises. Dans tout l'Altara, les voyageurs avaient vu des spectacles semblables, bien pires parfois, quand il s'agissait de villages entiers, les cadavres gisant dans les rues, offerts à la voracité des corbeaux, des renards et des chiens errants, qui s'enfuyaient dès qu'approchaient des cavaliers. Les récits parlant d'anarchie et de massacre au Tarabon et en Arad-Doman prenaient soudain corps, s'imposant comme de tristes réalités. Beaucoup d'hommes saisissaient la première occasion venue de se transformer en bandits et de régler de vieilles querelles. Egwene espérait que cette explication était la bonne. Mais tous les survivants accusaient les fidèles du dragon, et les sœurs accablaient Rand de reproches, comme s'il avait allumé les incendies lui-même. Pourtant, les Aes Sedai envisageaient toujours d'utiliser le dragon réincarné, en le contrôlant si elle trouvait un moyen. Et Gwen n'était pas la seule sœur convaincue qu'on devait faire son devoir, même quand il convenait de se boucher le nez pour y arriver. La fureur de Mirelle fit autant d'effet à Brine que de l'eau à un rocher. Tandis que le seigneur avançait paisiblement, et Gwen eut une image de lui continuant impassiblement son chemin, alors qu'un orage se déchaînait dans le ciel, et que les eaux d'une rivière en crue battaient les flancs de sa monture.
« Mirelle Sedai, »
dit-il, avec l'équanimité qui aurait dû être l'apanage de son interlocutrice.
« Quand une dizaine de milliers d'hommes me suivent comme mon ombre, J'entends connaître leurs intentions, en particulier lorsqu'il s'agit de gaillards de ce genre.
Un sujet dangereux. Satisfaite qu'on ne s'attarde pas sur l'inquiétude de Talmanès pour elle, mais elle aurait dû être horrifiée qu'il ait mentionné son nom, et Gwen ne put cependant s'empêcher de sursauter sur sa selle.
10 000 hommes ? Tu es sûr ?
La compagnie comptait à peine plus de 5 000 membres, quand Matt avait déboulé à Salidar à la recherche d'Elaine et Gwen. Brian haussa stoïquement les épaules.
En chemin, je recrute des hommes. Et Talmanès aussi. Moins que nous. Mais certains types sont réticents à l'idée de servir les Aes Sedai.
Plus d'un homme aurait été très gêné de dire ça devant 3 sœurs. Lui, il le clamait sourire aux lèvres.
En outre, après ses exploits autour de Kaerien, la compagnie semble avoir une réputation très flatteuse. Si on en croit la légende, Shenan Kalar n'est jamais vaincu. Et qu'apporte les probabilités de départ.
L'idée que voir 2 armées en présence signifiait immanquablement qu'il y aurait une bataille incitait les hommes à choisir un camp. En Altara, il en était allé de même. Tenter de rester à l'écart pouvait en effet se révéler aussi désastreux que de s'être rangé sous l'étendard des perdants. De plus, les neutres n'avaient jamais droit à une part du butin.
« Quelques-uns des hommes de Talmanès ont déserté pour nous rejoindre, »
reprit Brian.
« La chance de la compagnie, pour certains esprits, est liée à Matt Cotton, et elle disparaît quand il n'est plus là. »
Mireille eut ce qui ressemblait fort à un rictus.
« Les superstitions de ces crétins de Mourandiens peuvent nous être utiles. Mais je n'aurais pas cru que vous étiez également un imbécile. Talmanès nous suit parce qu'il a peur que nous nous retournions contre son précieux seigneur dragon. Mais s'il avait l'intention d'attaquer, ce serait déjà fait. Nous nous occupons de ses fidèles du dragon, après avoir réglé des problèmes plus importants. Mais communiquer avec cet homme... »
Non sans effort, Mireille parvint à recouvrer sa sérénité. En surface, au moins.
« Écoutez-moi bien, seigneur Brian, »
dit-elle, d'un ton qui aurait pu fendre du bois. Et Gwen n'écouta plus, bien au contraire. En mentionnant Matt, Brian l'avait regardé. Les sœurs pensaient tout savoir au sujet de la compagnie et de son chef, et elles n'y accordaient plus d'attention. Apparemment, Brian n'était pas si naïf. Inclinant la tête afin que les larges bords de son chapeau noient son visage dans l'ombre, et Gwen étudia le militaire du coin de l'œil. Il avait juré de lever cette armée, puis de la diriger jusqu'à la victoire contre l'Aïda. Mais pourquoi avoir prêté ce serment? Il aurait pu s'engager beaucoup moins, et les sœurs l'auraient quand même accepté, puisqu'elles entendaient utiliser tous ces soldats comme un masque du jour des fous, afin d'effrayer l'Aïda. Quoi qu'il en soit, avoir cet homme à leur côté était réconfortant. Toutes les Aes Sedai semblaient éprouver ce sentiment. Quant à Egwene, eh bien, comme son père, Brian était le genre d'homme capable de donner l'impression qu'il n'y a aucune raison de paniquer, quelle que soit la gravité de la situation. L'avoir pour adversaire, s'avisa soudain la jeune femme, aurait été aussi grave que d'avoir le hall pour ennemi. Et l'armée n'était pour rien dans cette affaire. Sans doute parce qu'elle avait relâché son attention, Siouan s'était un jour laissé aller à dire que cet homme était formidable. Bien entendu, elle avait aussitôt tenté de minimiser sa remarque. Mais un gaillard que Siouan Sanche trouvait formidable ne devait pas être tenu pour quantité négligeable. La colonne traversa un cours d'eau asséché qui mouilla à peine les sabots des chevaux. Alors qu'il festoyait d'un poisson, qui s'était égaré dans une flaque pas assez profonde pour qu'il puisse respirer, un corbeau battit des ailes comme s'il voulait s'envoler, puis changea d'avis et continua son repas. Siouan aussi observait Brian. C'était plutôt bien, car sa monture s'en sortait mieux lorsqu'elle ne tirait pas sur les rênes à contre-temps et s'abstenait de la talonner au plus mauvais moment. Et Gwen avait essayé d'interroger l'ancienne chère d'Amirline sur les motivations de Brian. Hélas, l'étrange relation qu'entretenait Siouan avec le militaire ne laissait pas de place pour autre chose qu'une acidité stérile. Soit elle détestait cet homme au-delà du disciple, soit elle l'aimait à la folie. Siouan Sanche, amoureuse, autant imaginer un corbeau en train de nager. Sur la crête, les soldats de la compagnie avaient disparu. Et Gwen s'en était pas aperçue, mais avoir des compétences militaires n'entrait pas dans ses obligations. Matt, en revanche, une réputation de guerrier, lui, un corbeau aimant nager aurait été un peu moins surprenant. Jusque-là, elle avait cru que Matt jouait les généraux parce que Rand l'avait propulsé à ce poste. Et cette idée avait déjà été difficile à avaler.
« Se fonder sur des choses qu'on croit savoir est dangereux »,
se rappela Egwen, les yeux toujours braqués sur Brian.
« Devrait être fouetté. Je vous préviens. Si j'apprends que vous frayez avec d'autres fidèles du dragon... »
Mireille n'avait pas achevé sa tirade, et il semblait même qu'elle continuait à s'échauffer. Mais Brian continuait à s'en ficher comme d'une guigne. Chevauchant toujours aussi paisiblement, il lâchait de temps en temps un « oui Mireille Sedai » ou un « non Mireille Sedai », sans paraître plus accablé que ça, et sans cesser de scruter les environs. Lui, il avait dû voir les soldats quitter la crête. D'où que le seigneur tira sa patience, la peur ne jouait aucun rôle dans le processus, c'était évident, Et Gwen, pour son compte, n'avait aucune envie d'entendre un sermon.
« Du calme, Myrel. On ne fera rien au seigneur Brine. »
Sa tête lui faisant de plus en plus mal, et Gwen envisagea de demander qu'on aille chercher une sœur dans le camp pour une guérison. En la matière, Siouan et Myrel ne valaient pas grand-chose. De toute façon, si la cause était le manque de fatigue et l'inquiétude, une guérison ne pourrait rien contre cette fichue migraine. En revanche, une intervention risquait de laisser penser que la nouvelle chaire d'Amerlin était écrasée par ses responsabilités. Et à la vitesse où se propageaient les rumeurs. Enfin, il existait d'autres remèdes que le pouvoir contre les maux de tête, même si elle n'en avait pas sur elle pour l'instant. Myrel eut une moue qui s'effaça très vite. Empourprée, elle détourna la tête, et Brian se perdit dans la contemplation d'un faucon aux ailes rouges qui tournait dans le ciel. Même un homme courageux savait se montrer discret à l'occasion. Repliant ses ailes, le faucon piqua vers une proie, derrière un bosquet de l'auréole rachitique. Et Gwen avait le sentiment de faire exactement la même chose. Fondre sur des cibles qu'elle ne voyait pas, en espérant que ce soit les bonnes et qu'elles soient vraiment là. Elle prit une inspiration qu'elle trouva trop saccadée à son goût.
« Cela dit, seigneur Brine, je pense que tu ne devrais plus rencontrer Talmanès. À coup sûr, tu en sais déjà assez long sur ses intentions. »
La lumière veuille que Talmanès n'en ait pas déjà trop dit. Dommage qu'elle ne puisse pas lui envoyer Siouan ou Léane pour le prévenir de tenir sa langue. Mais les écouterait-il? De plus, vu ce que les sœurs pensaient de la compagnie, ça aurait été à peine moins risqué que d'aller en personne rendre visite à Rand.
« À tes ordres, mère, »
dit Brine en s'inclinant sur sa selle. Comme d'habitude, il n'y avait aucune ironie dans sa voix, sans doute parce qu'il avait appris à se contenir en présence d'Aes Sedai. En queue de colonne, Siouan étudiait toujours le seigneur. Peut-être pourrait-elle déterminer à qui il était loyal. Malgré l'animosité qu'elle lui témoignait, elle passait beaucoup de temps avec lui. Beaucoup plus qu'elle le devait, en fait. Et Gwen réussit à garder les mains sur les rênes de Daishar, alors qu'elle brûlait d'envie de les porter à ses tempes.
« Ce sera encore long, seigneur Brine ?»
Dissimuler son impatience lui parut un effort surhumain.
« Encore un peu de chemin, mère. »
Bizarrement, Brine tourna à demi la tête vers Myrel.
« Ce n'est plus bien loin. »
De plus en plus de fermes constellaient le paysage, une bonne moitié s'accrochant au versant des collines. En Egwen, la native de Champ des Mondes trouva que ça n'avait pas de sens. Pourtant, des habitations basses et des granges se dressaient au milieu de pâturages sans clôture, où broutaient des vaches aux flancs creux et des moutons à queue noire en piteux état. Par bonheur, les fermes incendiées étaient plutôt rares. Un avertissement pour montrer aux autres paysans ce qu'ils risquaient s'ils ne se ralliaient pas au dragon réincarné. Dans une ferme, Egwen vit des hommes de Brine venus chercher du fourrage. Deviner que c'était des soldats du seigneur n'avait rien de difficile. Il suffisait de voir comment ils les regardaient en hochant la tête. De plus, il y avait l'absence d'étendards blancs. La compagnie aimait s'exhiber. En plus de l'étendard très reconnaissable, certains de ses membres avaient depuis peu pris l'habitude de nouer un foulard rouge autour d'un de leurs bras. Alors que 6 vaches et 20 de moutons meuglaient et bêlaient sous l'œil attentif de quelques cavaliers, des hommes à pied sortaient de la grange, avec sur le dos de lourds sacs qu'ils portaient jusqu'à leur chariot. Ce faisant, ils passaient devant le fermier et sa très nombreuse famille, qui tiraient une tête d'enterrement. Une des petites filles, une coiffe sur la tête, comme ses sœurs, avait enfoui la tête dans les jupes de sa mère, pour pleurer, certainement. Certains garçons, eux, serraient le poing, comme s'ils bouillaient d'envie de se battre. Le fermier serait payé, bien entendu. Et si ce que les soldats emportaient lui était indispensable, la vision des fermes incendiées devait lui couper toute envie de résister. Assez souvent, les soldats de Brine trouvaient dans ces ruines les cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants qui n'avaient pas eu le temps de sortir. Parfois, les portes et les fenêtres étaient clouées. Et Gwen se demanda s'il existait un moyen de convaincre les paysans que les brigands et l'armée n'étaient pas la même chose. Elle aurait voulu y parvenir, mais elle ne voyait pas comment. Sauf à affamer ses soldats, jusqu'à ce qu'ils en aient assez et désertent. Si les sœurs ne faisaient pas la distinction entre des pillards et la compagnie, que pouvait-on attendre de pauvres paysans? Alors que la colonne laissait derrière elle ses fermes et leurs occupants, Egwen dut résister à la tentation de se retourner sur sa selle pour jeter encore un coup d'œil. Regarder ne changeait rien. Le seigneur Brine était un homme de parole. À environ 1 lieue et demie du camp, à vol d'oiseau, le double à dos de cheval, la colonne contourna une colline semée de broussailles et d'arbres, et le militaire tira sur les rênes de sa monture. Sous le soleil déjà à mi-chemin de son zénith, et Gwen vit qu'une route partait sur le côté, plus étroite et plus sinueuse que la précédente.
« Ces gens ont pensé que voyager de nuit les protégerait des brigands, »
dit Brine.
« Une assez bonne idée, tout compte fait. À moins qu'ils aient tout simplement eu la chance du ténébreux. Ces marchands viennent de Kemlin. »
Une caravane d'une 50aine de grands chariots, tirés par des attelages de 10 chevaux au minimum, étaient arrêtés sur la route, sous l'œil vigilant d'un détachement de soldats de Brian. Quelques-uns de ces hommes, à pied, surveillaient le transfert entre la caravane et leur chariot d'un nombre important de barriques et de sacs. Une femme en robe très ordinaire agitait la main, puis désignait tel ou tel article en protestant. Mais les soldats faisaient mine de ne pas l'entendre. Un peu plus loin sur la route, de bien sinistres fruits pourrissaient aux branches d'un grand chêne. Des pendus, presque noyés sous une masse de corbeaux, qui composaient à l'arbre dénudé un feuillage dont il se serait sans doute bien passé. Ces oiseaux-là s'offraient un sacré festin. Rien à voir avec un vulgaire poisson. Même de loin, cette vision ne fit rien pour arranger la migraine des Gwen ou dénouer son estomac.
C'est ça que tu voulais me montrer? Les marchands ou les bandits?
Il n'y avait pas de robe parmi les pendus. Or, quand les brigands exécutaient des gens, ils n'omettaient jamais les femmes et les enfants, des victimes très efficaces quand on entendait faire un exemple. N'importe qui avait pu pendre ces bandits. Les hommes de Brian, la compagnie. Qu'elle exécute des prétendus fidèles du dragon n'aurait bien entendu pas fatiguer les sœurs, ou les hommes d'un seigneur ou d'une dame du coin. Si les nobles du Murundi avaient collaboré, tous les brigands auraient déjà eu la corde au cou. Mais ça revenait à vouloir faire danser un chat. Minute. Brian avait parlé de Kemlyn?
C'est lié à Rand? Ou aux Achamans?
Cette fois, le seigneur regarda ouvertement Myrel. Affaissée sur sa selle, la sœur paraissait accablée. Plus rien à voir avec la fringante cavalière du début.
J'ai pensé que tu devais savoir avant quiconque, mère,
dit Brian.
Mais j'ai peut-être mal interprété.
Il regarda de nouveau Myrel.
Savoir quoi, espèce de rustre hirsute?
Demanda Siouan en faisant avancer sa jument. Et Gwen eut un geste apaisant à l'intention de l'ancienne chère d'Amerlin.
Seigneur Brian, Myrel peut entendre tout ce que tu veux me dire. Elle a toute ma confiance.
La sœur verte tourna brusquement la tête. À son air ébahi, on aurait pu croire qu'Egwen venait de commettre un lapsus dans un moment de confusion. Pourtant, Brian acquiesça.
Je vois que les choses ont changé. Eh bien, comme tu voudras, mère.
Le seigneur retira son aume et le posa sur le pommeau de sa selle. Toujours hésitant, il choisit soigneusement ses mots.
Les marchands transportent les rumeurs comme les chiens transportent les puces. Et cette caravane ne fait pas exception à la règle.
Tant de circonspection chez Brian faisait un drôle d'effet.
Mère, parmi les rumeurs qu'ils ont glanées en chemin, l'une dit que Rondaltor est allé à Tarvalon pour prêter allégeance à Ilaïda.
Myrel et Siouan blêmirent en même temps, la sœur verte allant même jusqu'à chanceler sur sa selle. Et Gwen en resta d'abord bouche bée, puis elle surprit tout le monde, elle comprit, en éclatant de rire. Et l'incité au calme aida la chère d'Amerlin à recouvrir son sérieux.
« Seigneur Brian, »
dit-elle, en flattant l'encolure du hongre.
« Ce n'est pas vrai, croyez-moi. J'en suis absolument certaine, comme si j'avais vu Rand cette nuit. »
Siouan soupira de soulagement, et Myrel l'imita. Et Gwen faillit rire de nouveau de leur expression béate. Deux gamines à qui on vient de dire que le croque-mitaine n'est pas sous leur lit. Autant pour la sérénité des Aes Sedai.
« Une bonne nouvelle, »
lâcha Brian.
« Mais même si je chasse tous les hommes qui sont avec les marchands, cette histoire se répandra quand même parmi mes soldats. Oui, elle courra dans toute l'armée, à la vitesse d'un incendie de forêt. »
Cette éventualité doucha l'hilarité des Gwen. Un désastre si ça arrivait.
Dès demain, 6 sœurs pourront clamer la vérité à tes âmes. Le témoignage de première main de 6 Aes Sedai sera-t-il suffisant? Je veux parler de Myrel, Shiryam, Carlinia, Beonin, Anaya et Morvryn.
Ses sœurs ne seraient pas ravies de devoir rencontrer les matriarches, mais elles ne pourraient pas refuser, surtout s'il s'agissait d'étouffer dans l'œuf une telle rumeur. D'ailleurs, Myrel affichait déjà une moue résignée. Brian appuya un coude sur son casque, puis étudia Myrel et Egwen, sans accorder l'ombre d'un regard à Siouan. Son étalon tapant d'un sabot sur la roche, une volée de colombes aux ailes bleues s'éleva d'un grand buisson à quelques pas de là. Daïchar renacla, et la monture de Myrel piaffa nerveusement. Bien entendu, le cheval du seigneur ne broncha pas. À l'évidence, Brian avait entendu parler des portails, même s'il ne devait pas se douter de ce qu'ils étaient en réalité. Les Aes Sedai ayant le réflexe de tout garder pour elles, ça n'était pas étonnant. Pour tout dire, elles espéraient qu'Elaïda elle-même ne saurait rien de celui-là. Quant à Telaran Riod, Brian ne devait rien en savoir du tout. Le monde des rêves n'ayant aucune manifestation dans l'univers réel, ce secret vital était très simple à préserver. Bref, Brian devait ignorer pourquoi Egwen pouvait affirmer ce qu'elle affirmait. Pourtant, il ne lui demandait pas d'où elle tenait sa certitude. S'était-il tout simplement accoutumé au côté mystérieux des Aes Sedai?
Si tes 6 sœurs disent les choses comme elles sont, répondit-il enfin. Mais si elles essaient un de leurs trucs,
Dévisageant Egwene, il n'essaya pas de l'intimider, se contentant de faire sentir qu'il serait intransigeant. Apparemment, il fut satisfait de ce qu'il lut dans le regard de la jeune femme.
« Mère, tu t'en sors très bien, dirait-on. J'espère que tu continueras sur cette voie. Dis-moi ton heure pour cet après-midi, et je viendrai. Nous devrions dialoguer régulièrement. En tout cas, je répondrai à toutes tes convocations. Il serait bon de réfléchir ensemble au meilleur moyen de t'installer à la place de Laïda, quand nous serons à Tarvalon. »
Le seigneur semblait toujours un peu hésitant, sans doute parce qu'il n'était pas très sûr d'avoir compris tout ce qui se passait. Ou parce qu'il se méfiait encore de Myrel. En tout cas, il fallut un moment à Egwene pour comprendre ce qu'il venait de faire. Et ça lui coupa le souffle. Peut-être était-elle intoxiquée par la façon dont les Aes Sedai embrouillaient tout, mais Brian venait de dire que l'armée était à sa disposition. Egwene en aurait mis sa main au feu, pas au service du Hall ni de Sheriam, mais au sien.
« Merci, Seigneur Brian. »
Ça semblait peu face à un tel présent, d'autant plus que le léger mouvement de tête du Seigneur, assorti d'un fin sourire, confirma qu'elle avait bien compris ce qu'il fallait comprendre. Soudain, des milliers d'autres questions tourbillonnèrent dans la tête d'Egwene. Hélas, même seule avec le militaire, elle n'aurait pas pu les lui poser. Quel dommage de ne pas pouvoir s'ouvrir entièrement à lui. Prudence, jusqu'à ce que tu sois sûr, et encore plus de prudence ensuite. Un vieux proverbe qui s'appliquait parfaitement à presque tout ce qui concernait les Aes Sedai. Quant à Brian, eh bien, même le meilleur des hommes parlait avec ses amis, surtout de sujets censés être secrets.
Je suis sûr que tu dois t'occuper d'un millier de détails, Seigneur. Et la matinée est déjà bien entamée. Retourne au camp. Nous allons chevaucher encore un peu. »
Brian protesta, trouvant presque les accents d'un champion en train de se plaindre parce qu'il ne peut pas surveiller toutes les directions en même temps et de s'inquiéter parce qu'une Aes Sedai qui reçoit une flèche dans le dos n'est pas moins morte qu'une femme ordinaire. Le prochain type qui lui dirait ça, décida Egwene, le paierait cher. En réalité, 3 Aes Sedai valaient largement 300 hommes. Quand il fut à court d'arguments, Brian dut rendre les armes. Remettant son home, il se dirigea vers la caravane de marchands, au lieu de rebrousser chemin. Egwene trouva que c'était encore mieux.
« Tu veux bien ouvrir la marche, Suan ?»
dit-elle, quand le seigneur fut assez loin. L'ancienne chère d'Amirlin foudroya du regard le cavalier, comme s'il avait passé le plus clair de son temps à la tarabustée. Soudain, elle remit d'aplomb son chapeau de paille, fit volter sa monture, avec une pathétique maladresse, puis la talonna. Egwene fit signe à Myrel de suivre le mouvement. Comme Brian, la sœur verte ne put se dérober. Au début, elle regarda furtivement Egwene, espérant à l'évidence d'avoir abordé le sujet des sœurs envoyées à la Tour Blanche, et préparant des excuses pour avoir tenu ce projet secret, même vis-à-vis du hall. Egwene se murant dans son silence, la sœur verte devint de plus en plus nerveuse, et sa façade d'Aes Sedai ne tarda pas à se lézarder. Une arme très utile, le silence.